Vous écoutez bien France Culture, il est midi et demi. Le journal, Thomas Cluzel. Bonjour Thomas.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Et pour commencer, après que le Premier ministre Jean Castex a exhorté hier les Français à davantage de vigilance face à une deuxième vague de Covid-19, et alors que tous les regards se tournent désormais vers les prochaines vacances scolaires de la Toussaint en fin de semaine, tout le monde s'interroge que va bien pouvoir annoncer le président Emmanuel Macron demain soir à la télévision. Plusieurs mesures semblent à l'étude, véritables options ou menaces brandies pour remobiliser les Français. Un conseil de défense se tient en ce moment même.
Et pour en parler, invité de la rédaction aujourd'hui,
Jean Rottner, ancien médecin urgentiste et actuel président de la région Grand Est.
Donc, toujours s'agissant de cette pandémie, direction également l'Italie, premier pays touché en Europe.
Et là-bas, les autorités annoncent de nouvelles restrictions contraignantes.
Aux États-Unis, plus de 10 millions de bulletins de vote pour l'élection présidentielle du 3 novembre ont d'ores et déjà été transmis par anticipation.
Un nombre plus important qu'il y a 4 ans et qui laisse donc anticiper un taux de participation record. Enfin, après plusieurs reports, le procès de Gilbert Rozon s'ouvre aujourd'hui à Montréal. L'ancien dirigeant du festival Juste pour Rire, producteur très connu, devra répondre à des accusations de viol. Et puis, à 12h55, Olivia, ce sera bien sûr la grande table des idées.
Et un voyage aujourd'hui au pays du génome, voilà ce que nous vous proposons avec notre invitée, la biologiste Evelyne Heyer, à travers et à partir de notre ADN. Elle raconte une autre histoire de l'humanité. Rendez-vous dans une vingtaine de minutes.
Il va parler après le Premier ministre de la Santé, Olivier Véran, jeudi dernier, après le Premier ministre Jean Castex hier. Demain, ce sera donc au tour du président Emmanuel Macron de prendre la parole à la télévision pour souligner la gravité de la situation sanitaire en France. Au total, 9 métropoles, de même que la Guadeloupe, sont désormais en zone d'alerte maximale avec fermeture des bars et protocoles stricts dans les restaurants. En Ile-de-France, le taux d'occupation des lits en réanimation par des patients atteints du Covid est désormais de 42%. Enfin, le seuil des 1500 malades traités en réanimation pour une infection au coronavirus a été refranchi hier pour la première fois depuis le 27 mai dernier. Alors dans ces conditions, évidemment, chacun s'interroge. Qu'est-ce que le chef de l'État va pouvoir annoncer? Plusieurs médias évoquent déjà la possibilité d'instaurer des couvre-feux. On parle également de limiter à quelques personnes les rassemblements dans la rue, quoi qu'il en soit. Hier déjà, le Premier ministre avait préparé le chemin en évoquant de possibles reconfinements locaux. Autant d'options discutées en ce moment même à l'occasion d'un conseil de défense à l'Élysée. Pierre Neveu, bonjour.
Bonjour Thomas.
Pour l'heure, un seul scénario semble a priori exclu, celui du reconfinement total du pays. Mais pour le reste, donc, tout semble envisageable, comme en témoigne d'ailleurs Pierre, le sentiment de navigation à vue qui se dégage des différentes prises de parole successives de l'exécutif.
Et à chaque prise de parole, l'exécutif le reconnaît. On est face à une situation qui évolue rapidement. Il faut s'adapter et continuer à vivre avec le virus. Vivre avec le virus, c'est là toute la complexité du message politique qu'il faut traduire en acte au jour le jour. Et c'est parce que les indicateurs sanitaires deviennent de plus en plus inquiétants dans les grandes agglomérations, comme à Paris, et dans les départements de la Petite Couronne, que le Premier ministre Jean Castex a tenu hier matin un message anxiogène. Nous sommes, dit-il, à présent confrontés à une deuxième vague forte de l'épidémie. Tous les indicateurs passent au rouge. Jean Castex prépare les esprits. Charge au président de la République de prendre les décisions qui s'imposent en Conseil de défense sanitaire et de fixer un cap demain soir à la télévision. Ce moment sera donc solennel et grave. Tout est fait, assure l'exécutif, pour écarter un reconfinement généralisé. Mais des mesures de confinement localisées ne sont pas à exclure, comme un couvre-feu territorialisé dans les zones les plus touchées. Couvre-feu déjà mis en œuvre en Guyane, mais aussi de l'autre côté de la frontière en Allemagne, à Berlin et à Francfort. Et c'est bien là toute la difficulté de l'exercice politique qui attend le chef de l'État demain soir. Il ne peut pas être celui qui réduit indéfiniment les libertés publiques au nom du principe de précaution. À lui donc de fixer une trajectoire et de porter un message d'espoir, message qui s'adressera notamment à ceux qui souffrent et qui ont basculé dans la pauvreté au cours de ces derniers mois. Le gouvernement devrait faire des annonces en fin de semaine, notamment en faveur des plus jeunes.
Merci Pierre Neveu. Alors face à la résurgence inquiétante de la pandémie, la France n'est évidemment pas la seule à s'interroger sur le chemin étroit à tracer entre les dégâts socio-économiques d'un reconfinement et le coût économique d'une épidémie hors de contrôle. Au Royaume-Uni, tout d'abord, le Premier ministre a présenté hier un nouveau système d'alerte à 3 niveaux, censé simplifier à partir de demain le patchwork actuel de restrictions pour l'Angleterre. Et puis toujours, dans l'espoir de contrer le virus qui menace à présent de déborder les services de santé, Boris Johnson a décidé non seulement de réactiver 3 hôpitaux de campagne mis en place au printemps dernier, mais aussi de fermer à partir de demain et pour 4 semaines au moins tous les pubs, restaurants, casinos et salles de sport de la région de Liverpool. La seule pour l'instant classée dans la catégorie à risque très élevé. De nouvelles restrictions accueillies avec hostilité par les élus locaux du nord de l'Angleterre qui jugent les mesures de soutien à l'emploi mises en place par l'exécutif insuffisantes et craignent donc de voir leur équilibre financier mis en péril. En Italie, à présent premier pays touché en Europe et qui enregistre ces derniers jours une recrudescence inquiétante de cas de contamination. Là-bas aussi, les autorités annoncent de nouvelles mesures encore plus contraignantes. Bruce de Galzin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Rome. Alors, rappelons que chez vous, le gouvernement a déjà décidé de rendre obligatoire le port du masque en toutes circonstances et dans tous les lieux, intérieurs comme extérieurs. L'état d'urgence a par ailleurs été prolongé jusqu'au 31 janvier. En d'autres termes, Bruce, pas question de relâcher les efforts dans les jours qui viennent et probablement même les prochaines semaines.
Oh non, pour les 30 prochains jours au moins, un décret du gouvernement interdit certaines choses et en recommande d'autres, comme par exemple à la maison. Pas simple pour un État de s'immiscer dans les foyers. En tout cas, le président du Conseil, Giuseppe Conte, n'y était pas très favorable. Alors il recommande donc, mais très fortement, de ne pas inviter plus de 6 personnes à la maison et de porter le masque lorsque l'on reçoit chez soi. Les fêtes privées sont-elles interdites désormais, sauf les mariages, baptêmes, enterrements avec maximum 30 personnes. Le gouvernement rappelle en fait que les 3/4 des cas sont détectés en famille en Italie. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'à l'école, rien ne bouge. Il n'y aura pas de cours à distance comme le souhaitaient certaines régions pour éviter les déplacements en transport en commun. En revanche, fini les sorties de classe, les voyages scolaires et même le foot ou les sports de contact amateurs. Pour les entreprises, le télétravail est conseillé et le secteur public est même censé passer de 50% aujourd'hui à 60 voire 70% de fonctionnaires en travail à distance. Enfin, le soir, les bars, les restaurants, les glaciers devront fermer mais à minuit et à partir de 21h, interdiction de consommer debout devant les bars. En revanche, pas de changement pour les cinémas, les théâtres. Maximum 200 personnes en intérieur, 1000 en extérieur. 1000, eh bien, c'est aussi le nombre maximum de tifosi dans les stades désormais.
Merci Bruce de Galzin en direct de Rome. Retour en France à présent, toujours pour évoquer cette crise sanitaire. Invité de la rédaction aujourd'hui, Jean Rottner, président de la région Grand Est, mais aussi ancien praticien hospitalier urgentiste et ex-directeur du pôle de médecine d'urgence SAMU SMUR. Bonjour monsieur.
Bonjour.
À mes côtés pour vous interroger, Stéphane Robert. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Une première question, monsieur Rottner, parmi les nombreuses solutions à l'étude pour contrer donc cette deuxième vague, la seule véritablement en vigueur actuellement consiste à maintenir des mesures de limitation de la vie sociale avec la fermeture des bars à 22h dans une dizaine de villes et une fermeture totale à Paris et Marseille. Est-ce que cette mesure, au regard des foyers possibles de contamination sur les lieux de travail, dans les transports en commun, mais aussi en milieu scolaire, vous semble être la plus pertinente ?
Quand on entend vos reportages petit à petit au niveau de l'Europe, on se rend compte que les mesures sont beaucoup plus générales peut-être que celles que la France apporte aujourd'hui. Moi, pour tout vous dire, préservé de la deuxième vague jusqu'à présent, je regarde nos chiffres petit à petit augmenter et devenir plus inquiétants, malgré des mesures peut-être et une prise de conscience collective qui, dans notre région, était plus forte que dans le reste de la France. Donc on va être amené petit à petit à prendre, je pense, des mesures d'urgence peut-être plus conséquentes que simplement l'interdiction de la vie sociale ou la restriction de la vie sociale dans les bars et les restaurants.
C'est-à-dire, monsieur Rottner, est-ce qu'il faut envisager des reconfinements localisés, des couvre-feux ? On parle de couvre-feux également ?
Je crois une limitation effectivement des retrouvailles familiales, des fêtes, des anniversaires, des mariages. Peut-être, c'est vrai, revenir dans les zones à forte densité qui aujourd'hui posent problème à des formes de couvre-feu. Vous savez, dans le Grand Est, on a particulièrement connu cette épidémie. On a eu un nombre de morts vraiment supérieur peut-être à d'autres régions, on sait la mortalité que ça peut engendrer, les malheurs que ça peut provoquer. Donc moi je suis à la fois très humble mais également très prudent par rapport à cette épidémie, et s'il faut prendre des mesures conséquentes, il faudra les prendre. Aujourd'hui, d'un point de vue économique, vous savez, on était sur un plan de relance. J'ai bien peur qu'on revienne sur un plan d'urgence parce que l'économie va en souffrir. Et il faut que les Français en prennent vraiment conscience plus que jamais.
Alors précisément, c'est quoi la bonne jauge quand on est conscient comme vous en tant que médecin de la situation sanitaire et en même temps responsable politique puisque vous êtes président de la région? C'est quoi la bonne jauge entre des mesures sanitaires et la préservation du fonctionnement de l'économie?
La bonne jauge, c'est peut-être déjà qu'on arrête un peu d'être trop français, que dès qu'il y a une mesure un tant soit peu coercitive, on vienne la contester, qu'on conteste aujourd'hui le vaccin contre la grippe, qu'on conteste le port du masque, qu'on ne respecte pas dans les bars et les restaurants un certain nombre de consignes, qu'on soit en capacité de fermer justement ces bars et restaurants qui ne respectent pas les consignes, mais qu'on laisse ouverts ceux qui les respectent. Enfin, il y a une forme finalement d'autorité sanitaire à peut-être restaurer parce que il y a eu trop de laisser-aller depuis cet été. Je pense qu'il faut vraiment que les Français prennent conscience de la mortalité qu'engendre aujourd'hui le Covid. Ce n'est pas une maladie anodine, c'est une maladie qui provoque des morts, qui provoque des souffrances, qui laisse des séquelles. Ce n'est pas simplement une simple grippe.
Vous le disiez tout à l'heure, vous avez connu une situation particulièrement tendue en Alsace et à Mulhouse en particulier, puisque Mulhouse a été un cluster. Or, on voit depuis quelques jours les chiffres repartir à la hausse dans cette région, malgré le traumatisme qui a été vécu au printemps dernier. À quoi c'est dû selon vous et est-ce que ça vous alerte?
Clairement sur des concentrations et du non-respect d'un certain nombre de consignes dans les milieux urbains les plus denses, sur la ville de Reims, sur la ville de Strasbourg, où on n'arrive pas aujourd'hui à lutter effectivement contre ces phénomènes. On a encore, la préfète a découvert encore l'autre jour un restaurateur qui a ouvert à une école et à ses étudiants plus exactement sa salle et qui a fermé automatiquement et immédiatement à la fois le restaurant et qui a interdit naturellement le déroulé plus en avant de la manifestation. C'est des comportements qui sont aujourd'hui inacceptables, qui sont absolument pas citoyens et responsables. Et tout cela, bien, ça provoque des clusters, ça fait repartir les chiffres à la hausse et malheureusement, on en paye les conséquences. Et Strasbourg, vous savez, toute la polémique sur le Parlement européen, eh bien, si le Parlement européen ne revient pas, c'est des hôteliers qui bossent en moins, c'est du chômage partiel, c'est une fragilité économique qui s'installe. Et s'il faut tenir un discours, peut-être par rapport à notre jeunesse, c'est pas simplement un discours sur la viralité ou sur le fait qu'aujourd'hui on les pénalise par rapport à une vie sociale, on va les pénaliser par rapport à leur vie économique, par rapport à leur avenir, par rapport à ces perspectives-là. Et je pense que là, le discours présidentiel doit redevenir un discours aujourd'hui de fort et un discours d'autorité sanitaire.
Les élus des collectivités territoriales reprochaient il y a quelques semaines au pouvoir exécutif de ne pas suffisamment les consulter avant de prendre des mesures de restriction. Est-ce que ça va mieux de ce côté-là?
Ça va mieux de manière générale et je crois que cette consultation, elle doit se poursuivre parce que je n'ose pas aujourd'hui imaginer un reconfinement national et généralisé. Et si il doit y avoir des mesures plus coercitives, il faut vraiment qu'elles soient déployées sur les territoires. Il faut que ce dialogue entre les autorités préfectorales et les élus locaux se fasse. C'est le cas après quelques petites hésitations chez nous dans le Grand Est, où chaque préfet consulte et informe les élus locaux de manière extrêmement régulière, sous toute forme de moyens électroniques, de rendez-vous réguliers, hebdomadaires. Et les grandes décisions aujourd'hui se font en concertation avec les élus locaux, qui ont pris conscience aussi de leur rôle, qui ont pris conscience qu'ils ne devaient pas être forcément dans une opposition ou dans le pouvoir d'une forme de lobby de la foule, mais vraiment dans une responsabilité sanitaire. Aujourd'hui, oui, il faut parfois approuver des décisions qui sont des décisions plus coercitives, et il faut le faire en responsabilité, parce que sinon, nos territoires, notre économie, notre santé risquent d'être véritablement atteintes.
Merci Jean Rottner, président Les Républicains de la région Grand Est, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Stéphane Robert.
Il est midi 45 sur France Culture, c'est la suite de votre journal Thomas Cluzel. Avec cette information, le ministre de l'Éducation était invité ce matin au grand amphithéâtre de la Sorbonne.
Oui, alors non pas pour parler coronavirus et ou protocole sanitaire, non, Jean-Michel Blanquer venait ouvrir le séminaire national annuel des équipes académiques baptisé Valeurs de la République et censé promouvoir la laïcité dans les établissements scolaires. Antoine Marette, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en direct de la Sorbonne où le ministre a donc dressé le bilan annuel des atteintes à la laïcité.
Et sans surprise, les signalements pendant l'année scolaire 2019-2020 ont été moindres pour cause de confinement lié à la Covid-19. En tout, 935 cas d'atteinte à la laïcité ont été recensés à l'école. Comme les années précédentes, 6 académies regroupent la moitié des signalements. Créteil, Grenoble, la Normandie, Toulouse, Versailles, Nice et Lyon. Sur la nature des faits, Jean-Michel Blanquer distingue deux sortes d'atteintes à la laïcité. Les atteintes classiques comme le port de signes religieux à l'école, la contestation de l'enseignement ou encore le refus d'activités sportives et des atteintes nouvelles liées aux cours virtuels.
Il y a effectivement eu un phénomène au moment du confinement, puisque vous le savez, nous avons beaucoup développé l'enseignement à distance et il a parfois été réalisé de la part de certaines personnes une incursion dans un cours en obtenant le code d'un élève et en s'insérant dans un cours. Et donc certains en ont profité pour faire de la propagande islamiste, par exemple avec des chants religieux ou même des images violentes. Donc c'est des phénomènes que nous avons notés et bien entendu nous avons engagé des poursuites chaque fois que ça a été noté.
Et comment prévenir cela ?
Alors maintenant nous avons des outils techniques pour répondre à ça. C'est le CNED qui a travaillé une fois que ce phénomène a été noté pour permettre tout simplement aux professeurs d'empêcher cela chaque fois que cela se produit au travers d'une fonctionnalité qui a été développée dans le système qui s'appelle Ma classe à la maison.
Et puis la nouveauté à venir, c'est bien sûr le projet de loi contre le séparatisme annoncé par Emmanuel Macron, dans lequel le ministre de l'Éducation place beaucoup d'espoir dans son combat pour la laïcité. Parmi les mesures annoncées, la scolarisation obligatoire des 3 ans. Actuellement, 30 000 enfants ne vont pas à l'école sans raison médicale, parfois pour des motifs religieux.
Merci Antoine Marette en direct de la Sorbonne ainsi qu'à Romain Duquesne pour les moyens techniques. 48 heures avant Emmanuel Macron, Gérald Darmanin réunira cet après-midi tous les syndicats de police en attente de mesures susceptibles d'apaiser le ras-le-bol de la profession après l'attaque du commissariat de Champigny-sur-Marne ce week-end et l'agression par balle 3 jours plus tôt de 2 policiers dans le Val-d'Oise. Gérald Darmanin qui devrait en profiter pour présenter le budget 2021 et le plan de relance dévolu à son ministère.
C'est un accord qualifié d'historique qui a été signé hier entre le gouvernement et les syndicats de l'enseignement supérieur.
Oui, un accord qui vise non seulement à améliorer la rémunération, mais aussi les carrières des chercheurs et à renforcer l'attractivité scientifique de la France. Alors, coïncidence ou pas, il se trouve que ce sujet avait été évoqué pas plus tard que la semaine dernière lors de l'attribution du prix Nobel de chimie à la française Emmanuelle Charpentier, laquelle mène aujourd'hui ses recherches en Allemagne et qui n'avait pas manqué de soulever à cette occasion le manque d'attractivité justement de son pays. Stéphane Geneste, bonjour.
Bonjour Thomas.
Cet accord concerne donc 250 000 agents et prévoit une enveloppe, Stéphane, de près de 650 millions d'euros.
Oui, cet accord, c'est le fruit de plusieurs semaines de négociations entre le gouvernement et les syndicats. Il a été signé dans le cadre du projet de loi de la recherche qui prévoit un investissement de 25 milliards d'euros sur 10 ans par étapes progressives. Et une de ces étapes, c'est donc la revalorisation de la rémunération des chercheurs. Une enveloppe de 644 millions d'euros est donc consacrée à ce poste. Et pour Franck Louriro, secrétaire général adjoint de la SGEN CFDT, les conséquences de cet accord vont être positives.
Augmenter l'attractivité de la recherche en France. Ça va augmenter peut-être l'attractivité des carrières de chercheurs. Plus de jeunes auront envie de devenir chercheurs. Un des éléments forts aussi, c'est le fait que plus aucun chercheur ne sera recruté à moins de 2 SMIC en France. C'est une avancée, j'allais dire, presque historique, parce que c'est quelque chose qu'on n'arrivait pas à obtenir depuis de nombreuses années.
Néanmoins, certains syndicats n'ont pas signé cet accord et émettent encore des doutes. C'est le cas de la FSU. Benoît Test en est le secrétaire général.
Il y a certaines avancées, mais globalement, ce protocole fait l'impasse sur une question essentielle qui est celle de la précarité. Il n'y a rien pour les non-titulaires, il y a même un développement de la précarité, puisque finalement on développe des postes de professeurs juniors. Et donc l'un dans l'autre, ça nous fait plutôt pencher vers un refus de signature. Alors le compte n'y est pas globalement, quoi. Et on a même beaucoup plus de risques que de potentialités et que de choses à décrocher dans ce protocole.
Les syndicats qui n'ont pas signé ce texte ont encore quelques jours pour l'étudier. En effet, il est ouvert à la signature jusqu'à lundi prochain.
Merci Stéphane Geneste.
France Culture, 12h50. Comme attendu, Thomas Cluzel, le Sénat américain, a entamé hier l'audition de la juge Amy Coney Barrett, désignée par Donald Trump, à la Cour suprême, dans un climat assez délétère.
Oui, plus exactement par un dialogue de sourds entre d'un côté des républicains admiratifs de la magistrate fervente catholique et ultra-conservatrice et de l'autre des démocrates fustigeant un calendrier non seulement irresponsable en pleine pandémie mais surtout illégitime si près de l'échéance présidentielle. Quoi qu'il en soit, à 3 semaines, jour pour jour de l'élection, plus de 10 millions de bulletins de vote ont en réalité d'ores et déjà été transmis par anticipation. C'est 7 fois plus que lors du précédent scrutin, une hausse qui s'explique évidemment en raison du contexte exceptionnel lié à la crise sanitaire, sauf que cette augmentation, Valérie Cantier, laisse aussi anticiper un possible taux de participation record.
C'est surtout dans les États clés que l'on vote le plus par correspondance cette année, et surtout dans les zones démocrates. Auparavant, c'était plutôt une tendance républicaine. Le Wisconsin enregistre environ 5 fois plus de participation anticipée par rapport à 2016, 647 000 bulletins contre 146 000 il y a 4 ans. Idem dans le Minnesota et dans les villes à tendance démocrate comme Pittsburgh en Pennsylvanie ou Tampa en Floride. Au Texas, à Houston, on voit de longues files de voitures pour déposer les bulletins. Preuve que cette ville démocrate, noyée au milieu d'un État républicain, veut faire entendre sa voix. Certains attendent 10 heures pour voter. La Géorgie enregistre également un record de participation en avance. Bien sûr, il est impossible pour l'instant de prévoir les résultats d'une telle participation. Les républicains ont en effet encore le temps de voter en avance dans de nombreux États et on s'attend à ce qu'ils se déplacent en masse le 3 novembre, jour de l'élection. Ce qui est sûr, c'est que 10 millions d'Américains ont déjà voté sur 250 millions d'électeurs. La participation finale s'annonce déjà très haute. Certains médias parlent d'une participation raz-de-marée.
Voilà, et c'est donc dans ce contexte que Donald Trump, privé de déplacement pendant 10 jours après avoir été testé positif au Covid-19, a retrouvé hier les estrades de campagne en Floride, monté sur scène en lançant des masques à la foule, bien que lui-même non masqué, le candidat républicain a déroulé tous ses plus grands classiques des violentes diatribes contre la presse jusqu'aux mises en garde alarmistes contre la gauche radicale, mais plus encore, affichant une forme indéniable, bien loin de celle du septuagénaire obèse auquel des médecins administraient de l'oxygène il y a encore seulement une semaine, Donald Trump aura cherché à montrer qu'il pouvait d'un même revers de la main surmonter tout à la fois la pandémie et les sondages qui le donnent perdant de 12 points face à son adversaire démocrate Joe Biden. Dans le sillage du scandale Harvey Weinstein aux États-Unis et du mouvement MeToo, l'ex-producteur québécois Gilbert Rozon, dirigeant déchu du festival Juste pour rire, doit être jugé à partir d'aujourd'hui pour viol et attentat à la pudeur sur une victime. Il y a tout juste 3 ans, plus d'une dizaine de femmes, actrices et animatrices de télévision avaient lancé une véritable bombe en révélant le harcèlement et les agressions sexuelles que leur aurait fait subir l'ancien magnat de l'humour. Finalement, les procureurs n'ont retenu qu'un seul dossier d'accusation. Toujours est-il que la vague de dénonciation qui aura suivi cette affaire aura eu un gigantesque retentissement sur la société québécoise. Une correspondance à Montréal signée Pascal Guéricola.
Les récits de femmes dénonçant les agissements de Gilbert Rozon en toute impunité pendant plusieurs décennies ont poussé de nombreuses victimes à dénoncer leur agresseur avec le mot clic « moi aussi » en 2017. Une autre vague a suivi cet été, visant en particulier le monde culturel et le milieu politique. Pour Sandrine Ritchie, sociologue à l'Université du Québec à Montréal, ces dénonciations portent un coup dur à la vision d'un Québec égalitaire en vogue depuis les années 80.
L'égalité entre les femmes et les hommes, elle est inscrite dans la loi, elle est inscrite dans les chartes, mais c'est la différence entre l'égalité de droit et l'égalité de fait. La violence sexuelle, c'est un des indicateurs qui permettent de penser qu'il y a des rapports de pouvoir inégalitaires persistants entre les femmes et les hommes au Québec. C'est devenu un enjeu central qui révèle que le travail qui reste à faire pour arriver à une égalité de fait dans nos sociétés.
Interpellé par ce mouvement de fond, le gouvernement du Québec a demandé la réouverture d'enquêtes abandonnées par les services de police. Il finance aussi un organisme juridique, l'Aparté, qui accompagne gratuitement les victimes dans leurs démarches. C'est le travail quotidien de l'avocate Virginie Maloney.
Une personne qui veut pas porter plainte à la police, mais qui veut parler à son agresseur, là, on va l'aider à rédiger la lettre. Ça peut être une personne qui a reçu une mise en demeure parce qu'elle a fait une dénonciation sur ses réseaux sociaux. Puis là, comment est-ce qu'elle répond? Concrètement, l'aide qu'on fait, c'est ça que ça apporte dans la vie des gens.
Le procès de Gilbert Rozon pourrait inciter d'autres victimes à parler.
Une nouvelle vague de répression en Turquie. Ce matin, des dizaines de personnes ont été arrêtées par la police dans le cadre d'une vaste opération visant 167 personnes, pour la plupart des militaires soupçonnés de lien avec le prédicateur en exil, Fethullah Gülen, accusé par les autorités d'avoir orchestré le putsch manqué de 2016. En seulement 4 années, ce sont pas moins de 80 000 personnes qui ont été placées en détention préventive et quelques 150 000 fonctionnaires licenciés ou suspendus. Ou quand le gouvernement turc évoque des motifs de sécurité nationale pour faire taire ses opposants. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi instable sur la majeure partie du pays. Seul le sud-est sera épargné et bénéficiera d'un bon ensoleillement. Quant aux températures, elles afficheront entre 10 et 20 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Paumé. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.